Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
C'est la rentrée sur Divergence FM et comme la saison dernière, nous continuons notre partenariat indispensable avec La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie. Et nous sommes au téléphone, comme toutes les semaines, avec Françoise Verna, rédactrice en chef de cet hebdomadaire que l'on adore chez Divergence. Bonjour Françoise.
Bonjour, bonjour Bruno, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et ravi de reprendre cette nouvelle saison avec Divergence.
Et nous aussi, Françoise. Allez, on commence cette une de La Marseillaise avec un dossier sur les services publics qui, après la publication d'un rapport du collectif Nos services publics, démontre qu'au regard des nouveaux besoins sociaux, les moyens ne sont pas à la hauteur. Ah bon ?
Ben oui, tout à fait. Bon, en fait, on le constate dans le quotidien,
oui.
Mais tout l'intérêt de ce rapport, de ce premier rapport de ce collectif Nos services publics, qui est donc constitué de plusieurs centaines de fonctionnaires d'horizons divers, de diverses administrations, ils ont fait un premier rapport dont l'intérêt est de démontrer que, certes, il y a peut-être eu des augmentations en termes de budget, en termes y compris de création d'emplois dans les services publics, mais qu'au regard des énormes besoins sociaux qui se sont fait jour ces dernières décennies, ces moyens ne sont pas du tout à la hauteur. Pour citer par exemple quelques exemples qui sont détaillés dans ce rapport, hein. Un jeune sur quatre obtenait le bac il y a 40 ans. Ils sont 4 sur 5 aujourd'hui.
Oui.
Donc ça nécessite de rénover le service public de l'éducation. Il y a aussi l'augmentation, et c'est heureux, de l'espérance de vie. Mais il y a aussi une augmentation de 30% des maladies chroniques. Donc bien évidemment, si on continue à contraindre budgétairement les services publics, on ne va pas répondre à ces besoins. Et qui va se servir et va répondre à ces besoins, mais avec ces critères libéraux, c'est le secteur privé, qui est lui-même subventionné par le public. Donc, dans ce dossier, on donne le détail, un petit peu la philosophie de ce premier rapport du collectif et plusieurs exemples locaux dans l'Hérault, notamment dans le Gard, dans notre région Occitanie.
À lire aussi dans La Marseillaise, à paraître ce vendredi, la grève des salariés de la propreté au CHU de Montpellier.
Oui, tout à fait. Alors, ce sont des salariés qui sont donc qui travaillent au CHU de Montpellier pour la société Honnête. C'est donc cette grande société de nettoyage. Et ces salariés, depuis le 13 septembre, ils sont en grève. Pourquoi ? Pour leurs conditions de travail et aussi des augmentations de salaire. Il faut savoir qu'Honnête, c'est pas la petite entreprise, hein, c'est 1,9 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023, et 70% de ce chiffre d'affaires est réalisé dans le secteur du nettoyage de la propreté. Il est implanté dans 9 pays. Et les salariés qui sont donc employés par Honnête pour nettoyer donc le grand CHU de Montpellier, ils ont des salaires vraiment au plancher et ils ne s'en sortent plus, puisqu'ils sont frappés par l'inflation. Donc nous racontons un peu leur lutte qui pour l'instant continue depuis le 13 septembre, puisque s'ils ont été reçus par la direction d'Honnête ne veut absolument pas entendre parler de mesures salariales.
À lire aussi, on l'a vu, on l'a reçu sur la tête, les épisodes Cévenol dans l'Hérault, et notamment à Ballaruc-les-Bains, où l'événement météorologique pourrait provoquer ce qu'on appelle un inversac, à savoir de l'eau salée pénétrant dans le réservoir d'eau douce.
Oui, en fait, oui, tout à fait, c'est un phénomène qui est très connu, mais qui va s'intensifier avec le changement climatique, et donc la violence et la récurrence de ce qu'on appelle des orages cévenols, qu'on appelle maintenant plutôt phénomène méditerranéen, puisqu'il ne se limite pas simplement aux Cévennes. Alors, il n'y a pas de danger à proprement dit pour la consommation d'eau quand l'eau salée vient se mélanger à de l'eau douce, mais là, on est sur des questions environnementales. Ça peut avoir un impact sur la biodiversité de l'étang, hein, sur la pêche aussi, sur les eaux qui servent pour les cures thermales, hein, et puis aussi en termes d'inondation, puisque les nappes phréatiques sont très hautes à un moment donné quand il y a ces phénomènes-là, et ça impacte aussi bah, que ce soit les chantiers, et puis les maisons et les habitations. Donc on a donc cet article qui nous explique un petit peu ce phénomène d'Inversac d'un point de vue scientifique et surtout ses impacts d'un point de vue sur notre environnement et notre vie quotidienne.
Pour terminer, un petit peu de culture avec jusqu'au 23 décembre, le Centre photographique documentaire de Sète présente Le Monde d'en face, une rétrospective du travail de Gilles Favier qui est le directeur artistique du très grand festival Images Singulières.
Oui, alors c'est une grande exposition qui va durer, donc qui a commencé le 15 septembre et qui dure jusqu'au 23 décembre, jusqu'à la fin de l'année. Et bon, c'est à la fois une très bonne nouvelle et il y a quand même une nouvelle qui est moins bonne, c'est que le festival Images Singulières va s'arrêter à la fin de l'année pour des questions de moyens.
De moyens.
Mais la direction et les responsables de ce festival n'ont pas voulu terminer comme ça. Ils ont voulu mettre à l'honneur Gilles Favier, qui donc travaillait en tant que directeur artistique. Et là, ce sont ces images, son travail à lui, qui est passionnant parce qu'en fait, il recoupe la grande histoire, hein, aussi bien dans les quartiers populaires, hein, puisqu'il avait fait des reportages à la Cité de la Renaude dans les années 90 à Marseille, qui a eu un tel succès, cette exposition. Après, il y a eu une grande exposition qui a même inspiré Mathieu Kassovitz pour son film La Haine. Il a fait appel à Gilles Favier. Il est allé en Irlande du Nord, à Belfast, pour photographier et donc témoigner de l'après-guerre civile. Il a toute une série comme ça de photos et de tout est en noir et blanc parce qu'il dit que ça met plus d'intensité. Il est allé aussi à Saint-Étienne, hein, travailler auprès des travailler, photographier et accompagner les habitants de cette cité, de cette ville très populaire, qui a été durement frappée, hein, par la crise économique. Donc on a en fait l'histoire qui se déroule sous nos yeux. D'ailleurs, c'est le titre, hein, Le Monde en face, et on invite vraiment à se plonger dans cette grande exposition. On lui consacre d'ailleurs une double page dans l'édition de l'Hebdo d'Occitanie du 22.
Allez, à la une de la... Pardon, Françoise. À la une de la Marseillaise, vous avez les titres, et on développe tout de suite avec Françoise Vernat.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence cette une, donc Françoise, comme on le disait en introduction, avec le dossier à paraître ce vendredi sur les services publics après la publication d'un rapport du collectif Nos Services Publics. Et il démontre qu'au regard des nouveaux besoins sociaux, les moyens ne sont pas à la hauteur.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un collectif, Nos Services Publics, qui a été créé en avril 2021 et qui réunit des agents publics de l'État, des hôpitaux, des collectivités, c'est-à-dire les trois versants de la fonction publique. Hein. Et donc, leur objectif, c'est de mettre à jour et agir contre les dysfonctionnements institutionnalisés, disent-ils, de nos administrations. Alors, pourquoi ce rapport? C'est le premier rapport qu'ils publient. Et en fait, Ils expliquent, on leur donne la parole dans le dossier, d'où vient ce projet. En fait, il vient d'un grand paradoxe. Les tensions autour des services publics, elles s'accroissent en France. Hein. Et parfois, on le dit, on l'entend, hein, et on le vit, ça craque. Et pourtant, aujourd'hui, il y a plus d'argent public qu'il y a 20 ans. Hein. Il y a plus d'argent public dépensé aussi. Alors, comment l'expliquer? Alors, ils disent, c'est toute la nouveauté de ce rapport. C'est-à-dire de comparer l'évolution des services publics à celle des besoins sociaux.
Et, oui.
Et les besoins sociaux, ils sont énormes, puisqu'ils se basent sur tout simplement des statistiques et puis l'évolution de la société, qui peuvent être très positives, mais il faut que le service public suive. Par exemple, il y a 40 ans, il y avait seulement un jeune sur quatre qui obtenait le bac. Aujourd'hui, ils sont 4 sur 5. Il y a aussi une augmentation de l'espérance de vie qui est très importante. Il y a aussi le nombre de kilomètres a été multiplié par 5 ans en 60 ans, le nombre de kilomètres parcourus par citoyen.
D'accord.
Donc ça veut dire qu'il faut des infrastructures. Donc c'est un travail qui est très documenté point par point, qui parle du secteur de l'éducation, des transports, de la justice et de la sécurité, notamment de la santé. Et ils constatent que, inversement, les moyens des services publics n'ont pas suivi parce que c'est marqué par l'injonction à la baisse des dépenses, moins d'impôts, moins de fonctionnaires. Et donc, il y a un écart croissant entre besoins et moyens. Et ça, c'est quelque chose qui est bien documenté par ce rapport. La conséquence, c'est quoi ? C'est que le secteur privé, il n'est pas en concurrence. Il vient répondre, à sa façon à lui, c'est-à-dire une façon qui n'est pas inconditionnelle, puisque le service public, il s'adresse à tout le monde. Hein. Donc, ce décrochage entre les besoins et les moyens mis en face, ça conduit à une offre privée accrue. On le voit avec la question de l'accueil, par exemple, des jeunes enfants.
En crèche, c'est ce que j'allais vous dire, et dans les EHPAD aussi.
Et dans les EHPAD, donc c'est notamment accru dans les écoles et les cliniques. Hein. Et donc, mais pour la société, ces services concurrents au public, ils se caractérisent aussi, démontrent ce collectif, nos services publics, par un coût supérieur.
D'accord.
Et une absence surtout d'accueil inconditionnel, contrairement à la vocation universelle des services publics. Alors on est allé aussi chercher des exemples pour illustrer ce constat et ce rapport. Et nous avons notamment un entretien avec Romain Blanchard, qui est le chef du pôle régional du défenseur des droits en Occitanie. C'est-à-dire qu'il va recueillir avec les défenseurs du droit de la région les demandes des citoyens qui n'ont pas de réponse par rapport à leurs besoins en termes de respect des droits, des libertés. Et donc, en fait, l'essentiel des saisines, c'est quasiment l'immense majorité, porte sur le dysfonctionnement des services publics.
D'accord.
On a le cas, par exemple, il y a la protection sociale, ça c'est vrai, des personnes qui n'arrivent pas à se faire payer leur retraite dès qu'elles partent à la retraite, parce que ça prend des mois. On a aussi le droit des étrangers, avec une difficulté d'accès aux services publics avec la dématérialisation. Et puis, quelque chose qui peut concerner énormément de monde, on a le droit routier. Il y a une augmentation importante des litiges en la matière. Et là, on a vu, en absence de réponse par le service public, se développer une offre privée qui est extrêmement cher, avec des officines qui ont pignon sur rue et qui proposent de faire les démarches.
D'accord.
Comme certains aujourd'hui proposent de faire des démarches pour obtenir une carte d'identité, faire la queue à votre place, faire le dossier. Et donc, c'est une offre privée pour laquelle le citoyen va payer, alors que c'est un droit. Donc voilà, nous avons balayé un peu cette question qui est fondamentale, parce qu'il y a des enjeux notamment de transition écologique, il y a des enjeux de besoins sociaux auxquels il faut répondre, et donc ça passe aussi par la modernisation et le développement des services publics.
Mmh. Et ce rapport, il fait des constats, mais est-ce qu'il apporte des solutions ?
Alors, il n'apporte pas forcément des solutions. Ils partent du principe que déjà remettre, dire que le service public c'est quelque chose d'indispensable, c'est déjà quelque chose qu'il faut redire. Et surtout, ils s'apprêtent à mener un certain nombre de débats. Il y en a un qui est prévu mardi 26 septembre à l'Assemblée nationale.
Oui.
Et là, il y aura des élus, il y aura donc des membres du collectif, il y aura des syndicalistes et il y aura des chercheurs.
D'accord.
Donc ça va être une mise en commun et un débat. Et on a aussi quand même, dans des propositions et des réflexions des partis progressistes notamment, qui sont pour développer les services publics.
Mmh.
On a, c'est un point d'appui, on va dire. C'est un peu comme ça qu'il faut prendre ce dossier, qui est complètement, ce rapport, pardon, qui est complètement accessible sur le site de nos services publics. Et on voit que il y a une nouvelle génération de fonctionnaires. Qui a une vraie réflexion sur leur métier, sur la vocation des services publics. Et 40 ans après la création du statut général de la fonction publique, avec la création des trois versions de la fonction publique, c'est quand même positif de voir que cette nouvelle génération prend le taureau par les cornes pour dire qu'il y a de l'avenir et que pour combattre les inégalités, il faut du service public.
Affaire à suivre, donc.
Complètement.
Sur le front de l'actualité sociale, la Marseillaise revient sur la grève des salariés de la propreté au CHU de Montpellier. Pourquoi cette grève ?
Alors, pourquoi cette grève ? Parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles et en plus, on les oblige maintenant à pointer, donc ils sont pistés comme des ils sont pistés de façon complètement honteuse, et ça vient s'ajouter à des conditions de travail et salariales très compliquées.
D'accord.
Donc nous avons Khadija Bouloun, qui est secrétaire du syndicat CGT à Honnêt, qui explique que les salariés, elle en fait partie, exercent dans des conditions en totale décadence. Ils ne touchent aucune prime. Et les rémunérations sont vraiment trop basses avec l'inflation.
D'accord.
Alors, il faut savoir que ça oscille entre 1300 et 1400 euros maximum pour un contrat à temps plein. Elle dit c'est famélique et nous ne pouvons pas vivre décemment. Alors, c'est d'autant plus. Alors, ils exercent en plus dans un service public, le CHU de Montpellier, sur des missions de nettoiement et de propreté, ce qui est complètement fondamental pour un hôpital, on connaît les ravages des maladies nosocomiales, donc ils font vraiment partie de la chaîne, on va dire, de la chaîne du soin, la propreté.
Et oui, absolument.
Hein. Sauf que les moyens des hôpitaux publics, on en parlait avec les services publics, sont ce qu'ils sont, c'est externalisé à des entreprises privées, comme Honnêt, on peut qualifier de multinationale. Hein. Elle est implantée, basée à Marseille, mais implantée dans 9 pays. Et le chiffre d'affaires, c'est 1,9 milliard d'euros en 2023, dont 70% de ce chiffre d'affaires qui est réalisé dans le nettoyage. Donc, les salariés enrichissent cette entreprise. Mais quand ils demandent des augmentations de salaire, eh bien, en face, on leur répond qu'il en est hors de question. Donc, ils sont en grève depuis le 13 septembre. Il y a eu des rencontres, une première rencontre le vendredi 15 septembre avec la direction, mais la direction refuserait, d'après ce que nous dit les syndicats, toutes les négociations.
D'accord.
Et nous avons donc contacté la direction qui a précisé que les négociations, elles étaient en cours, mais sur toutes les revendications hors financières.
D'accord.
C'est-à-dire, en fait, sur...
Donc, il n'y a pas de négociation, quoi.
Pas les augmentations de salaire. Et la direction botte en touche en disant qu'ils ne peuvent pas gérer directement cette question. Et c'est la branche nationale d'Honnêt. On voit bien qu'on est... Il y a vraiment un bras de fer, hein. Un bras de fer très, très, très dur, hein, mais les salariés sont déterminés et ils sont dans l'attente d'une autre rencontre en attendant cette autre rencontre, ils vont continuer à agir. Il faut savoir que faire grève, c'est ne pas être payé. Et c'est quand même un acte très fort de la part de ces salariés qui sont assez nombreux et qui sont soutenus, il faut savoir, par le syndicat CGT de l'hôpital public du CHU de Montpellier, oui, l'Union locale CGT de Montpellier, qui sont associés au mouvement. On voit bien qu'il y a une solidarité qui commence à se mettre en place. Et c'est souvent des luttes et des grèves au long cours dans le secteur du nettoiement. On en a plusieurs exemples, notamment dans les hôtels, hein, qui oui, aussi sous-traitent. Donc, ils demandent que cesse la mise en place du dispositif de pointage. Mmh. Ils demandent que des augmentations de salaire. Et puis ce système qui est de mettre en absence autorisée certains salariés, oui, parce qu'il n'y a pas d'affectation. Donc la personne, elle n'est pas appelée pour travailler. Et quand elle est en absence autorisée, elle n'est pas payée.
Mais oui.
Donc c'est vraiment la précarité à tous les étages.
Ils sont honnêtes chez Honnête, on peut dire.
Voilà.
Allez, affaire à suivre aussi, j'imagine. Alors que la saison des orages Cévenol a commencé, notamment à Balrug-les-Bains dans l'Hérault, l'événement météorologique qui pourrait provoquer un nouveau phénomène d'inversac, à savoir de l'eau salée pénétrant dans le réservoir d'eau douce, aurait commencé visiblement.
Ben oui, disons que c'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est son intensité. Donc on est sur la presqu'île de Balrug-les-Bains, et dans les temps de taux, sort la source de la vis. Quand il y a des orages, alors on les appelle Cévenol, maintenant on parle plutôt de phénomène méditerranéen parce qu'ils se sont généralisés au bassin méditerranéen, oui, avec beaucoup d'intensité, et on voit les dégâts que ça peut faire. Mmh. Eh bien, il y a ce mélange d'eau douce qui se jette dans l'eau salée de l'étang. Donc, mmh, c'est un phénomène qui est très connu des hydrologues, hein, qui suivent ça de très près, mais il s'est intensifié.
D'accord.
Le premier phénomène de ce qu'on appelle l'inversac, il remonte à 56 ans, 1967. Hein. Mais le dernier, il a duré 18 mois et lui, il remonte à novembre 2020, un an et demi.
D'accord.
Et donc, c'est des causes météorologiques, hein, c'est-à-dire s'il y a une tempête, ça peut faire monter le niveau de la mer. Par exemple, c'est ce que nous explique un ingénieur, Ludovic Sema, qui est chargé de mission au syndicat mixte du bassin de Thau. Donc, un inversac peut se former. Mmh. Et donc, ces phénomènes méditerranéens dont nous ne sommes qu'au début, hein, il y a eu un épisode de la semaine dernière assez fort, peuvent créer un nouvel inversac. Alors, il n'y a pas des conséquences, on va dire, sur la santé de l'homme, hein, humaine, puisque cette eau, ce mélange eau salée, eau douce, n'est pas utilisée pour être consommée.
Oui.
Mais il peut y avoir un impact environnemental et économique,
oui,
notamment en matière de pêche, de conchyliculture. Ça peut avoir aussi un impact sur les eaux thermales de Balrug,
oui,
hein, et ça peut changer la qualité des eaux. Donc il y a quand même, c'est un phénomène qui n'est pas neutre dans son impact. Hein. Il y a aussi les dégâts matériels, hein, puisque dès qu'il y a un inversac, il y a une augmentation avec des nappes phréatiques qui sont très hautes.
Oui.
Il y a des problèmes à la fois sur les chantiers et puis dans les maisons, hein,
oui,
dans les lieux d'habitation. Donc il y a des personnes déjà qui ont été inondées lors du dernier, qui ont des communes qui ont été placées, enfin des communes, des lieux qui ont été placés en catastrophe naturelle. Donc il y a eu une vingtaine d'inondations qui ont été dénombrées lors du dernier inversac, donc qui a duré de novembre 2020 à mars 2022.
Mmh.
Alors, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, l'idée c'est de savoir comment on peut éviter, hein, que le phénomène ne se reproduise. Hein.
Oui.
Alors il y a un programme, hein, déjà une étude qui a été mise en place, hein, pour mieux anticiper l'occurrence, c'est-à-dire combien de fois un inversac pourrait se produire,
oui,
mais il faut aussi pouvoir résoudre le problème. Là, c'est pas du tout tranché, hein, puisque il y a des vrais débats. Est-ce qu'on rehausse les plans d'eau? Est-ce qu'on optimise le stockage d'eau souterraine? Mmh. Mais c'est très, tout ça est très coûteux. C'est encore une question d'argent.
Oui.
Ce sont des projets qui, pour l'instant, ne sont que des projets. C'est
d'accord.
pas du tout engagé. Donc, c'était important d'expliquer un peu ce phénomène. C'est ce qu'on fait dans cet article, le phénomène d'Inversac. Et puis, là où on en est, des solutions, sachant que la solution majeure passe par toutes les mesures contre le réchauffement climatique et le dérèglement qui provoque les orages que l'on connaît.
Mmh. Oui, et puis c'est un phénomène qui ne va pas toucher que le pourtour du bassin de Thau, parce qu'on parle beaucoup de la salinité, du remontée de la salinité, notamment dans la vigne. Ça risque d'accélérer un petit peu le phénomène, ces inversacs.
Tout à fait. C'est jamais neutre quand on a ce genre de phénomène, et c'est bien de le porter à connaissance du public.
Allez Françoise, on termine cette une de la Marseillaise avec un petit peu de culture, et c'est un peu la tristesse dans l'âme que vous m'apprenez que le festival Image Singulière devrait s'arrêter. Il va falloir aller du côté de Perpignan, Visa pour l'image, je pense. Et on le rappelle que le festival Image Singulière, c'est de la photo documentaire, et jusqu'au 23 décembre, le centre photographique documentaire de Sète présentera Le Monde en face, une rétrospective du travail de Gilles Favier, directeur artistique du festival.
Oui, tout à fait. Donc c'est en fait en forme de clôture de l'aventure de ce grand festival de photographie documentaire Image Singulière. Donc on reviendra évidemment plus en avant sur les raisons pour lesquelles il stoppe son activité à la fin de l'année. On en a déjà un article dans la Marseillaise de ce vendredi, mais on a voulu insister beaucoup sur la grande exposition qui met à l'honneur le travail photographique de celui qui fut pendant 15 ans le directeur artistique d'Image Singulière, Gilles Favier, et ce qui nous permet, à travers cette grande expo, d'avoir un panorama de l'histoire, que ce soit de l'histoire de notre pays, mais aussi de l'histoire, par exemple, il est allé en Irlande, en Irlande du Nord, il s'est rendu à Belfast après la fin de la guerre civile pour voir ce qu'il dit, ce que devenaient les gens. Et donc, il y a ce travail-là qui est exposé, ou alors au début des années 90, il est allé à Marseille dans le quartier populaire de la Renaude.
Ouais.
Il va passer un an et demi en immersion dans ce quartier. Il répondait à une commande du ministère de la Culture, et ça va donner quelque chose d'assez formidable sur cette vie quotidienne, sur ces solidarités qui se nouent dans ces quartiers très très pauvres, on va dire.
Hein. Oui.
À tel point qu'il y a eu une grande exposition à l'époque à la Villette, au début des années 90, et que Mathieu Kassovitz, à qui on doit la haine, qu'il a fait connaître, a sollicité Gilles Favier pour travailler sur la préparation du film.
D'accord.
Donc, on a aussi un travail sur... il est allé sur les traces de l'esclavage au nord du Bénin, dans le petit village de Coco. Il a mené ça pendant plus de 10 ans, au début des années 2000, pardon.
Ouais.
Et il y a aussi son reportage qui est intitulé « Merci patron ». En 2005, il est allé couvrir pendant une année tous les conflits sociaux importants en France. Et il nous explique que c'était vraiment génial parce que c'était pour lui une façon de découvrir le monde ouvrier qui défendait son outil de travail, que les patrons déménageaient pendant le week-end ou la nuit.
Ah oui, d'accord.
Tout ce qui tourne autour de cette dignité du travail le touche beaucoup, nous explique-t-il. Et donc, on a ce fil rouge tout au long de cette exposition qui porte justement sur les solidarités ouvrières, notamment à Saint-Étienne. C'est l'endroit où il a grandi. Il s'interroge, que reste-t-il de ces solidarités dans cette ville où il n'y a plus beaucoup de travail? Et en fait, il explique qu'il y a pas mal de choses. Les pauvres, en général, sont plus solidaires que les riches, dit-il. La ville est dans un état lamentable, mais en même temps, Ça me rappelle le Liverpool des années 80 qu'il a connu. Et il y a un petit côté Ken Loach. Alors, il a beaucoup travaillé pour Libération, pour l'agence Vue. Donc, on est dans à la fois de la photo, vraiment de la photo documentaire. C'est l'intitulé Le Monde en face. C'est vraiment ça. Et donc on a on écrit d'ailleurs que aller voir cette exposition, c'est prendre un grand bain d'humanité.
Et c'est à voir jusqu'au 23 décembre au Centre photographique documentaire de Sète.
Tout à fait.
Tout est dit, Françoise, pour cette première de la saison.
Oui, on a bien démarré.
Et oui. Et en tout cas, chers auditeurs, on vous rappelle que vous pourrez retrouver tous ces titres dans la Marseillaise papier, l'hebdomadaire d'Occitanie, apparaître tous les vendredis dans tous les bons kiosques. Et quant à nous, Françoise, on se retrouve à partir de la semaine prochaine, évidemment.
Très volontiers.
À la semaine prochaine.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.